Je propose de évoquer le thème « Avancer en confiance et aussi dans l'espérance ». Et j'avais l'espérance que ça allait marcher. Je me suis inspiré d'un travail de réflexion aussi d'Elisabeth qui avait travaillé ce sujet. Donc « Avancer en confiance dans l'espérance ». C'est la rentrée. C'est la fin des vacances, la reprise des cours, le retour aux obligations professionnelles, aux obligations familiales. Alors c'est un mélange d'énergie nouvelle sans doute, de projets, peut-être des projets enthousiasmants, peut-être aussi des inquiétudes silencieuses. Il y a ceux qui affrontent un changement majeur, ceux qui vivent une rentrée dans la peur peut-être dans une certaine solitude, peut-être dans l'incertitude. Alors, parfois se cache une prière silencieuse. Seigneur, que tu me donnes une année meilleure que la précédente. Et parfois, c'est la pluie qui arrive. Un imprévu, une difficulté, une épreuve. Et ce n'était pas prévu. Ce n'est pas ce que j'ai demandé dans ma prière. Ce n'était pas désiré. Mais il faut pourtant avancer. Et il y a dans cette tension entre nos attentes et la réalité, à ce que j'ai demandé et ce que je vis, dans cette tension, Dieu me rappelle l'espérance. Alors dimanche dernier, Thibaut Arroy a donné un message sur l'espérance, qui est comme une ancre de bateau. Une encre de l'âme sûre et ferme, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, je vous propose de prolonger cette réflexion. Quand tout va bien, parler d'espérance n'a pas de sens. Mais parler d'espérance a un sens quand tout va mal. Aussi, je propose de commencer par un premier point sur l'anxiété. Et puis sur la confiance, pour terminer sur l'espérance. Alors ce sont des tableaux qui vont illustrer que Marie-Pauline connaît bien, si vous avez des questions à lui poser sur ces tableaux. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre, on a encore évoqué ça ce matin dans nos prières, de maltraitance, il y a des catastrophes. Une instabilité politique majeure sur le plan international, mais aussi en France. On parle d'éco-anxiété. Alors, parler d'espérance a vraiment tout son sens. Tout le monde a des peurs et des angoisses. C'est pour chacun. Alors, quand il s'agit de choisir ses études, une profession, un conjoint, à la suite d'un deuil, lors de l'annonce d'un diagnostic médical, une crainte parfois pour son lien conjugal. On peut aussi avoir des craintes comme par rapport au dérèglement, des conséquences du dérèglement climatique, j'ai parlé des anxiétés. Et puis quand on entend les infos, on est rempli de craintes. Mais on peut aussi tout simplement avoir peur de parler en public, d'avoir une phobie, être tétanisé par un examen, craindre l'échec. Je peux simplement aussi craindre le rejet. Et puis, est-ce que je vais être à la hauteur cette année? Alors Dieu lui-même, dans l'Écriture, nous donne tellement d'encouragement à tous ceux qui sont craintifs, tous ceux qui sont apeurés. Combien de fois ne crains pas? Alors il y a bien sûr la peur, qui est l'instinct naturel, primaire, qui, quand notre sécurité physique, mais émotionnelle, mais aussi psychologique, quand notre sécurité est menacée, un malheur semble imminent. Alors c'est une réaction naturelle. Bien sûr, il y a des peurs rationnelles qu'on a acquises et qui sont vitales pour la survie. Alors il y a aussi le stress, quand la charge quotidienne est trop lourde, trop de pression, trop d'efforts à fournir, il y a le stress au travail. On en parle de plus en plus. mais il y a aussi l'anxiété qui peut se définir comme une inquiétude majeure, sans objet apparent, et qui peut induire des manifestations psychologiques ou physiques importantes. C'est comme un sentiment pénible d'attente, d'un danger imprécis, qu'on n'arrive pas à définir comme un bruit de fond. Et quelque part, on sait que ça va forcément mal finir. Alors quand tout va mal, l'espérance est une aspiration plus ou moins profonde vers quelque chose de meilleur. Je lis ce psaume. Mon Dieu, entends ma prière. Ne te cache pas quand je te supplie. Sois attentif. Réponds-moi. J'erre sans but, accablé d'inquiétude. Je suis troublé parce que dit l'ennemi, par l'oppression qu'imposent les méchants. Ils font tomber le malheur sur moi, ils me poursuivent avec colère. L'angoisse me serre le cœur. Les terreurs de la mort tombent sur moi. Je suis pris de crainte et de tremblement. Je suis submergé par l'effroi. Le psaume 55. Et puis on connaît ce cri « Jusque à quand ?» par le prophète Habacuc. « Éternel, vais-je crier à toi ?» Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Pourquoi? Il n'y a pas que l'homme qui l'a exprimé. Dieu homme a dit pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin. Tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour? Mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. À la fin des livres de Job et aussi d'Habacuc, Job, comme Habacuc, après leur questionnement, donne gloire à Dieu. Et comme dans ce chant qu'on a chanté, quand c'est parfois difficile, mais je chanterai gloire à Dieu. Alors le temps de la révolte est nécessaire. Ce cri de révolte est plus sain qu'un silence désespéré, une soumission fataliste. Et la personne qui souffre pose des questions sur son entité, sur sa foi, sur Dieu. Mais ce n'est pas un péché de douter, de se poser des questions. Ce n'est pas un manque de foi. Et d'ailleurs, Dieu dans la parole ne censure pas ses prières exprimées par les psalmistes, par Job et par d'autres. Et lire un psaume de complainte peut être une grande aide pour exprimer ce qui est au fond de mon cœur. Alors quand parfois le chemin est noir, quand il y a du désespoir, de la rancune, de l'amertume, il semble, comme dit le poème, que parfois l'espoir s'est perdu en chemin. Prête-moi ton espoir, j'ai dû égarer le mien. Je me sens chaque jour perdu, désespéré. La douleur et la confusion sont mes compagnes. Alors l'évangile a-t-il un sens dans la nuit où Dieu se tait? Il faut abandonner l'idée d'un Dieu qui serait un assureur. Il faut abandonner l'idée d'un Dieu qui me protégerait de tout mal, de tout accident, toute maladie. Par contre, il faut aussi abandonner l'idée que Dieu serait manipulateur. La souffrance reste sans compréhension. On le voit aussi dans le livre de Job. Dieu prend la parole à la fin du livre de Job et affirme l'impossibilité pour l'homme de percer tous les mystères. Alors une recherche de sens est peut-être impossible. Pas de cause, c'est-à-dire pas de pourquoi en un seul mot. Pas de finalité, c'est-à-dire pourquoi en deux mots. Pas plus que les autres humains, nous pouvons échapper au mal, à la souffrance qui caractérise le monde déchu dans lequel on vit. La vie ne peut pas se vivre sous garantie. Oui, il y a une menace qui plane sur chaque vie. Mais Dieu est là. Mais Dieu est là. Il y a beaucoup de promesses sur sa présence en tout temps, et particulièrement dans le temps d'épreuve. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34. Le psaume 145, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Sa divine présence est certaine. Si on ne peut rien dire, alors à ce moment-là, peut-être que dans son cœur, on pourrait murmurer, « Jésus, tu es là, je suis là, je t'aime, tu m'aimes. » Et comme quand on a chanté, « Mon Dieu, tu m'as aimé » sur la croix, c'est toujours émouvant de dire, « Mon Dieu, tu m'as aimé », parce que finalement, ça nous permet, en l'exprimant, de réaliser qu'effectivement, Dieu m'aime. Alors l'espoir renaît, peu à peu, est grandi, et alors sa parole nous revient. Ce texte de Psaume 119, « Souviens-toi de ta parole en ma faveur, puisque tu m'as donné l'espérance à moi, ton serviteur. C'est ma consolation dans mon affliction. Ce que tu as dit me fait vivre. » Je lirai une prière d'une chrétienne catholique assassinée en Algérie. Elle se rendait à la messe. Elle a été assassinée en novembre 1995. Il a été trouvé cette prière après sa mort. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne. Il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Alors le contraire de l'anxiété, de la peur, c'est la confiance. Mais qu'est-ce que la confiance ? Alors, si on s'intéresse à l'inverse de la confiance, donc l'anxiété et la peur, j'ai dit, mais aussi la méfiance, la défiance. La méfiance, c'est je ne me fie pas du tout, je crois que je vais être trompé. Et puis la défiance, je ne me fie qu'avec précaution, j'ai peur d'être trompé. Alors, sur cette peinture, même si je suis dans un tournant de ma vie, parfois un peu sombre, j'ai confiance que plus loin dans mon chemin, l'horizon va devenir plus serein, dans le calme de la proximité de Dieu, parce que Dieu est là. Alors trop de confiance, pas trop exagéré. Peut-on avoir trop de confiance en Dieu? Oui, parce que Dieu va me donner tout ce que je veux. Il va me protéger de toutes les souffrances et va me faire réussir. Alors on peut avoir trop de confiance aussi en soi. Je peux me protéger, je peux tout réussir, je peux m'en sortir. Avoir confiance trop en l'autre, ils sont tous gentils. Mon petit copain m'aimera toujours. À l'inverse, parce qu'il y a toujours deux extrêmes. Ne pas avoir trop de confiance en Dieu, parce que se dire Dieu est quand même il est sévère, il est exigeant. Dieu est lointain, il se tait. Il ne me voit pas, il ne me répond pas à mes prières. Des fois, je peux manquer de confiance aussi en moi. Je suis nul, je suis impuissant, je ne vaux rien. Et puis, manquer de confiance en l'autre, ils sont tous dangereux. Alors, à qui se fier? Confiance, ça veut dire avec Foi, c'est donc se sentir en sécurité dans la relation. Il n'y a pas de menace, pas de danger, pas de tromperie, pas d'emprise. Et dans ce cadre, je vais pouvoir oser me remettre à l'autre, à compter sur lui. Il est vrai que tous nos meilleurs amis vont nous décevoir, ils l'ont peut-être déjà fait un jour ou l'autre. Et chacun en a certainement déçu nos propres amis. Seul Dieu est digne d'une confiance pleine et entière. Dieu ne déçoit pas. Même si parfois, on peut être déçu de Dieu, mais parce que notre vision est limitée. Notre vision sur Dieu est biaisée par le péché. On ne voit pas Dieu tel qu'il est vraiment. Alors l'aveuglement sur nous-mêmes, sur nos circonstances, nous conduit parfois à méconnaître le vrai Dieu. Et parfois, ce sont nos propres choix, nos propres décisions qui nous conduisent dans une impasse. C'est pas Dieu, mais c'est peut-être moi le responsable. Et on est prompt à accuser Dieu dans ce cas-là. Alors, nous vivons dans un monde qui est bouleversé par le péché. Mais Dieu a fait la croix. Seule la confiance en Dieu permet de tenir bon dans notre vie terrestre. La foi en Dieu est un appui plus stable que toute puissance humaine. Car Dieu est le Dieu fidèle, le répète l'apôtre Paul. Moïse l'a dit aussi, des auteurs de psaumes aussi. Dieu est fidèle. Alors mettons-nous notre confiance en lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas confiance, que l'on a peur? Eh bien, des fois, on peut contrôler dans une relation humaine, dans son couple ou à son travail. Quand on a peur de quelqu'un, on peut chercher à le contrôler. On peut des fois fuir les problèmes. On peut peut-être attaquer l'autre, c'est plus facile. Mais que dit Dieu au roi Akaz dans le prophète Isaïe, au chapitre 7, où le roi Akaz, roi de Juda, il est assiégé par deux autres rois, donc vraiment il y avait de quoi avoir peur, être anxieux, être terrorisé. Et Dieu lui dit, garde ton calme. N'aie pas peur devant ces deux bouts de tison fumant, là, ces deux rois qui veulent l'attaquer, qui projettent un malheur contre toi. Ils projettent un malheur contre toi. Ça n'arrivera pas. Et l'Éternel ajoute, si tu n'as pas confiance, tu ne tiendras pas. Vivre dans un monde sans confiance est impossible. Il faut bien qu'on fasse confiance à mon argent, à mon téléphone, à ma maison, à une relation, dans mon travail. Sans confiance, on ne peut pas vivre. Si tu n'as pas confiance, me dit Dieu, tu ne tiendras pas. Ayant confiance en Dieu pour tenir. Je suis avec celui qui est abattu, dit Dieu en Isaïe. Et puis, pour une femme, combien de femmes dans ce monde sont délaissées, sont manipulées, utilisées? Et Dieu lui dit, tu ne seras plus appelée la délaissée. Quand on fait une chute, ne se relève-t-on pas? Et puis, ce verset du psaume 102, « Dieu écoutera la prière de ceux qu'on a pillés. » Peut-être que quelqu'un a pillé, a volé notre sérénité, notre dignité peut-être, notre paix. Dieu le sait, on peut l'apporter par la prière en disant « Dieu, tu vois ce qui m'arrive. » Et Dieu écoute la prière de celui qu'on a pillé. Ce qui nous fait chavirer dans notre espérance, c'est d'interpréter que nos souffrances sont des fois comme un rejet de Dieu et comme une absence de son amour. Mais non, à l'école de Jésus, on n'échappe pas forcément à l'épreuve, mais on apprend à orienter cette épreuve vers la vie. On apprend à assumer résolument dans la réponse à Dieu. Le fardeau demeure, peut-être Là, avec Jésus, il est à côté de moi, il marche avec moi, Dieu est là. On a un fardeau, il y a le joug qui pèse, mais c'est un fardeau qui est léger, dit Jésus. Parce que c'est l'amour qui le porte. Le joug, la pièce de bois qui me lie à Jésus, pèse un peu, mais il est léger. Et Jésus ajuste la pièce de bois à mon corps tous les matins. Je vous donnerai du repos, dit Jésus. Alors l'espérance, il y a comme une tension entre le présent et l'avenir, une tension entre le déjà et le pas encore qu'on voit dans le Nouveau Testament. Alors ce concept n'est pas limité aux individus, l'espérance, mais englobe en fait l'univers tout entier. Et on l'a chanté dans un chant, on l'a exprimé, se penche ceci ou... J'arrive pas à trouver les paroles, mais que tout l'univers sera au bénéfice de l'œuvre de la croix. Et la terre souffre et elle soupire, mais elle attend la réponse de la croix. Donc l'espérance est pour tout l'univers. Les apôtres croyaient que la résurrection, c'était un avant-goût du plan de Dieu pour la création tout entière. Et c'est vrai. La création va être libérée de la corruption, où jouira de la liberté lorsque les enfants de Dieu seront glorifiés. Alors, contrairement à l'optimisme qui se base sur des prévisions souvent humaines, dans n'importe quelle situation, l'espérance biblique repose sur la confiance en Dieu. Même si mes circonstances sont désespérées. L'espérance, ce n'est pas un souhait dont nous serions plus ou moins sûrs. Parce qu'elle est une assurance. Espérer, c'est attendre avec certitude quelque chose que Dieu me promet. Alors, quelle est notre espérance? La question n'est pas inutile, même si on l'a souvent posée. Et c'est d'abord une personne, c'est Jésus-Christ. Et puis, c'est l'attente de sa glorieuse apparition qui est aussi notre espérance. Et Paul dit en Colossiens, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de participer à la gloire à venir. Et puis Thibaut Arroy nous l'a présenté dimanche dernier, que l'espérance est pour nous une encre de l'âme qui est fermement fixée. On peut se fixer sur un point solide, elle est ancrée dans la promesse de Dieu. Mais l'apôtre Paul voit aussi un caractère irremplaçable de l'espérance en utilisant une autre image, le casque de l'espérance du salut. Alors un casque, c'est pour protéger la tête, le crâne, notre cerveau. Et Paul évoque ainsi sans doute la protection des centres vitaux de notre vie, de notre foi, de nos pensées, l'orientation de notre vie. Pour que ce casque va nous protéger peut-être d'avoir des pensées disant ben, ma vie, mon existence n'a aucun sens, mais ce casque va me protéger de ces pensées. Et ce casque, c'est quoi? C'est l'espérance. C'est aussi un cadeau extraordinaire. C'est peut-être un cadeau qu'on peut offrir à notre voisin, à notre prochain, de lui donner un peu de l'espérance dans cette vie. Et ce que Dieu me fait comme cadeau incroyable, c'est qu'il veut me donner un avenir et une espérance. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance, dit-il par le prophète Jérémie. Un cadeau, mais c'est aussi un cadeau qui va me responsabiliser, qui va m'engager. La grâce de Dieu, nous dit Paul, dans son épître à Tite, la grâce de Dieu nous enseigne. Alors, un, à renoncer à un mode de vie impie, voilà, et deux, à vivre, alors non plus, à l'inverse, pas de manière impie, mais dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice, la piété, en attendant notre bienheureuse espérance. Donc, l'attente de cette espérance m'engage à vivre conformément à ce que Dieu me demande. Alors, on ne peut pas attendre tout de Dieu. On ne peut pas attendre naïvement que, voilà, que le monde change tout seul. On ne peut pas attendre l'espérance que c'est que quand on sera dans le ciel pour l'éternité. Non, il y a une espérance pour aujourd'hui, ce soir et demain, pour le monde. Et peut-être que Dieu compte sur moi pour faire briller cette espérance pour les autres. Peut-être compte sur moi pour changer des choses dans ce monde. Comment? Eh bien, en menant à renonçant à certaines choses et à vivre conformément à sa parole. Nous voulons croire que nous pouvons faire quelque chose et apporter aujourd'hui dans ce monde un message qui va transformer ce monde aujourd'hui. Et c'est que pas que ce n'est pas que pour l'éternité. L'espérance. Alors Dieu, j'aime beaucoup cette pensée que Dieu est le créateur. Et donc le propre d'un créateur, le seul créateur comme Dieu, c'est de créer à partir de rien. Donc de faire du neuf dans une histoire. Et si dans mon histoire, Dieu pouvait faire émerger du neuf? Je ne peux pas imaginer. C'est de l'impensable. Ça demanderait du miracle. Mais oui, mais c'est le propre de Dieu. Il peut faire à partir de rien, il crée du neuf. C'est incroyable pour donner pour alimenter notre espérance. Dans ma vie, les choses peuvent changer. Dieu est le spécialiste. Alors croire que Jésus est venu sur terre pour offrir un salut. Oui, ça nous le dit l'épître de Jean, hein, Évangile selon Jean, chapitre 3. Il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. C'est sa volonté, il est venu pour ça, pour apporter un salut. Et croire que quelque chose, enfin, croire cela, c'est un, mais quel refuge! Ça peut être un moteur aussi dans ma vie pour me lever ce matin et avancer dans mes difficultés. Croire que quelque chose de beau m'attend. Au-delà de ce qui semble perdu. Oui, parce que Dieu peut créer du neuf dans ma vie. Croire, non pas pour fuir le réel, mais pour y trouver une raison de se lever, pour trouver une raison de tenir bon et de vivre. Croire à l'incroyable, pour mieux vivre à la réalité parfois qui devient insupportable. La prédication de la croix est une folie, dit Paul. Pour ceux qui périssent, hein, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alors on pourrait dire que l'espérance, c'est aussi une folie. C'est croire que Dieu peut apporter du neuf dans ma vie. C'est une folie, mais qu'on accepte volontiers. Elle est la puissance de Dieu, la folie de la croix. Alors quand la situation est désespérée, quand on va dire sur la planète tous les marqueurs sont au rouge, quand les prévisionnistes disent que nous sommes fichus, quand tout semble aller très mal sur la planète Terre, sur le monde entier, sur dans la France ou dans mon travail, parfois dans ma famille, alors contre toute espérance, j'espère. Espérer contre toute espérance, parce que le Dieu créateur peut apporter du neuf dans mon histoire. Les promesses divines nourrissent notre espérance. Alors les promesses et délivrances réalisées dans le passé, effectivement, vont nous encourager et fondent la confiance. Mais nous souhaitons chacun un retour à l'espérance, en Dieu. Un retour, parce que des fois on la perd. Un retour, tiens, c'est comme une conversion. Une conversion à l'espérance. Autrefois, quand on faisait du ski, je crois qu'on l'enseigne peut-être plus, mais en ski, pour se tourner sur une pente, on faisait ça une conversion. Je ne sais pas si on l'appelle toujours comme ça. Donc c'est vraiment faire un demi-tour. C'est revenir à l'espérance. Parce que des fois, on la perd. Une espérance qui s'appuie sur la fidélité. Alors tournons notre cœur vers Dieu, comme une conversion renouvelée tous les jours. Ayons foi en Dieu pour espérer et pour entendre une bonne nouvelle. Et cette espérance, dit Paul, ne trompe pas. Ah, ne déçois pas, dit Paul, c'est le même verset, souvent les traductions, ne trompe pas, ne déçois pas, ou je sais plus quelle façon aussi de traduire, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors fions-nous aux promesses divines, et comme dit l'apôtre Pierre, ainsi nous nous fions, nous nous confions, hein, encore plus au message des prophètes. Bah, vous ferez bien d'y prêter attention quand même. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Alors on sait que le soleil, quand il se lève, fait disparaître la nuit. Le soleil fait disparaître la nuit. Une étoile ne fait pas disparaître la nuit. Mais par contre, dans ce texte, une étoile du matin, c'est-à-dire Jésus, levée dans mon cœur, va illuminer mon cœur. Je m'arrête en lisant ce chant que nous aimons bien avec Elisabeth, mais il n'est pas dans nos recueils, je crois. Je vais simplement lire. Tu es le Dieu des grands espaces et des vastes horizons. Oui, l'horizon, il n'est pas borné, il y a de l'espoir. Tu es le Dieu des longues routes. Parfois, mon chemin paraît long. Des chemins vers l'infini. Tu es le Dieu qui vient marcher sur mon chemin, à côté de moi, me rencontrer, m'accompagner. Une lumière dans nos vies pour nous aider la nuit à traverser la mort et le danger et nous ouvrir la liberté.